Nous lisons ensemble dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13, les versets 1 à 9. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous comme eux. Et Jésus disait cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues. Mais il n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron : « Regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. » Pourquoi occupe-t-il du terrain ? Inutilement. Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le cette année encore. Je creuserai la terre tout autour, j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. » Un texte qui s'ouvre sur un massacre. Voilà un bon texte pour aujourd'hui. On aurait pu le lire à n'importe quelle autre occasion. Le contexte religieux étonne un petit peu ici parce qu'on met la main sur ces pauvres pèlerins au moment où ils font des sacrifices, un petit peu comme si Dieu lui-même avait mis le holà, vous savez, comme si c'était un peu mérité, comme s'ils avaient dépassé les bornes. Ce qui pose question dans de nombreux textes bibliques, et pas celui-là seulement, dès que Dieu intervient pour jouer un rôle, c'est qu'il joue souvent, pas toujours, mais fréquemment en tout cas, un rôle que nous ne lui aurions pas attribué, nous-mêmes. Nos attentes à son sujet sont peut-être parfois de simples habitudes de pensée. C'est peut-être ça aussi qu'il faut savoir affronter, combattre peut-être, pour changer. Il arrive que la Bible nous surprenne et exige un petit déplacement de notre part, c'est le cas ici dans ce texte. Que Pilate ait donné l'ordre ne nous étonne pas vraiment, le personnage fera plus tard, vous savez, une courte apparition où il démontrera son goût pour les solutions radicales. Est-ce qu'il avait affaire ce jour-là à des zélotes, des partisans de la lutte armée, responsables d'un coup d'éclat, un danger vraiment palpable, une tension dans l'air? Qu'est-ce qu'il a fait décider cette chose-là? Nous ne savons pas. Avait-il de bonnes raisons de s'inquiéter face à un public qui se contentait, après tout, de s'acquitter de ses devoirs religieux, comme nous aujourd'hui? Personne ne viendra nous rafler, en tout cas pas avant la collecte, j'espère. On n'en apprend pas davantage. Et surtout, personne ne s'étonne de ce dénouement, même pas Jésus, qui conclut seulement et assez platement que personne n'est à l'abri. Seul message perceptible, préparez-vous suffisamment pour ne pas être surpris. Les mauvaises nouvelles continuent, 18 morts dans l'effondrement d'une tour, on imagine les titres des journaux, vous savez, 18 morts dans l'écroulement d'une tour à Siloé, le bilan s'alourdit, des images comme on aimerait en voir un peu moins souvent, gnanana, etc. Même conclusion à la fin de ce deuxième fait divers tragique, ou presque, convertissez-vous. Et pour le reste, pas de commentaires. Le grand absent là-dedans, dans ces faits divers, c'est Dieu. Alors évidemment, il n'a pas un mauvais rôle non plus. On aurait pu le faire intervenir et lui donner un rôle un peu discutable. Il ne ricane pas de ce qui arrive, au moins. Heureusement, il ne regarde pas non plus impavide des tragédies humaines sans broncher. C'est déjà ça. Mais il n'est pas là, simplement. C'est peut-être encore plus déroutant. Cette absence d'engagement de Dieu, et donc de réponse ou d'explication aux tragédies humaines, nous laisse une impression un petit peu pénible. Si lui-même n'est pas là, que pourrons-nous faire, nous, avec le peu d'énergie que nous avons, à sa place? Et là encore, Jésus accepte les circonstances, mais sans chercher à les interpréter. En tout cas, pas au moment où il est devant sa chaîne d'infos en continu, avec un flot de faits divers comme ça, tous plus tragiques les uns que les autres, il ne les commente pas directement. L'absence de commentaires provoque parfois en nous ce questionnement embarrassant, mais que penser et que faisait Dieu là-dedans, et où était-il, etc. Et puis, sans qu'on ait vraiment résolu le problème, puisque Jésus ne cherche pas à le résoudre, donc il aboutit au résultat souhaité, il n'y a pas de solution, nous arrivons dans cette parabole du figuier stérile, au beau milieu d'un conflit entre un propriétaire et son jardinier. Controverse qui porte sur le sort à réserver à un pauvre figuier qui ne produit plus rien. Quel mauvais goût! On pourrait laisser ce figuier tranquille, lui permet d'être simplement là pour des raisons esthétiques, mais ses heures apparemment sont comptées pour des questions de rentabilité. C'est-à-dire qu'à court terme, on ne voit rien de bon venir de sa part. Là encore, nous sommes un peu surpris par cette logique, ou de la trouver à cet endroit-là, bien sûr, mais il se pourrait qu'on le pousse tout simplement à la retraite pour faire place à plus jeune et plus productif que lui. Là, ça c'est vraiment une situation très ordinaire. On pourrait aussi penser que le propriétaire a décidé de le couper pour qu'il n'épuise pas en pure perte, c'est ce qu'on nous indique à la fin du texte, la terre dans laquelle il est planté, qu'au moins les quelques ressources qui restent dans cette terre profitent à quelqu'un d'un peu plus vigoureux. C'est pour ça qu'on envisage de l'envoyer au rebut ou d'en faire du bois de chauffage. On ne sait pas vraiment, mais rien ne permet de trancher, si j'ose dire, la question. Et pourtant, il y a quelqu'un qui s'entête ici, c'est le jardinier. Il lui demande un délai parce qu'il persiste à croire qu'une amélioration est possible avec du temps et des efforts. Je creuserai, je mettrai du fumier, il va bien finir par donner quelque chose. Il y croit, lui, au point que toute l'espérance dont il est capable semble tenir dans un tout petit peut-être. Il est le seul à ébranler les certitudes de quelqu'un qui pouvait très bien décider de couper une bonne fois cet arbre sans même le consulter. C'est un subalterne, après tout. Dieu est-il vraiment absent de ce texte ? Nous aimons bien d'ordinaire nous le figurer sous les traits du maître, le maître de la vigne, le maître du domaine, etc., qui a des employés, des gens de maison à qui il donne des ordres. C'est souvent comme ça que nous distribuons les rôles. Mais si nous lui attribuons presque souvent un rôle éminent, il faut peut-être ici y voir une simple habitude. Et s'il était ailleurs ? Ici, il est sans doute derrière ce jardinier qui est encore capable d'un peut-être. Dieu est peut-être présent dans la patience de ce subalterne, dans un dénouement possible, alors que tout montre le contraire. Il est ce qui résiste aux évidences. Il croit à notre fécondité, alors que la hache destinée à abattre cet arbre est déjà prête. Est-ce bien raisonnable ? Non, bien sûr, et c'est peut-être là que se cache un Dieu inattendu. Chacun pourrait rétorquer que le maître est toujours là, c'est lui le boss, le patron. Et si ce figuier ne se décide pas à porter du fruit, il sera finalement coupé. D'ailleurs, le jardinier en convient à la fin, si on ne peut vraiment plus rien pour lui. Mais attendons quand même. D'où viennent les pauses plus ou moins longues de l'espérance, sinon de nous ? D'où vient cette incapacité chronique à attendre patiemment ce qui demande du temps, sinon de nous, et un peu de fumier, et un peu de soins et de bons outils ? Il faut donc inverser la distribution des rôles dans ce texte et accepter de changer l'image de Dieu que nous entretenons sans qu'elle nous rende de grands services d'ailleurs. La parabole du figuier stérile montre que Jésus est conscient de la nécessité de changer cette image peut-être désastreuse. Qui mérite notre confiance ? Celui qui se décourage pour des questions de rentabilité à court terme ? Ou bien celui dont la patience se cache dans un peut-être qui change tout parce qu'il est prêt à attendre longtemps. Où se cache Dieu ? Pour répondre à cette question, il nous faut là aussi un peu de temps, ça tombe bien. Nous sortons de cette parabole en sachant qu'il faut bêcher la terre, prendre soin, mettre tout notre savoir-faire au service de l'espérance et attendre que notre monde se révèle enfin, sortir de sa stérilité provisoire et produire enfin du fruit. L'espérance, c'est considérer qu'une stérilité est toujours provisoire. Un bon jardinier sait cela. Et en quittant le jardin d'Éden, déjà, il nous était justement, vous vous en souvenez, demandé d'aller bêcher un peu plus loin, d'aller mettre du fumier un peu plus loin. Il y a tellement de lopins de terre à faire fructifier, finalement. Au fond, il n'y a pas vraiment de surprise dans ce texte. Ce n'est pas une découverte, mais une redécouverte de quelque chose de bien, bien plus ancien, une très ancienne logique divine qui se ferait à nouveau un passage au milieu de nos découragements face aux exigences de rentabilité à court terme. La mission donnée à l'humain dès le commencement revient en quelque sorte mettre un petit peu d'ordre dans nos découragements et nos échecs. Elle revient tonifier notre espérance qui lâche souvent prise, faute de solution à court terme. Évidemment, les images bucoliques de la Bible paraissent un peu loin dans notre univers bétonné, mais nous savons bien que la terre a travaillé et au moins autant notre nature humaine, notre pâte humaine, que la terre qui nous nourrit. C'est à la fois l'un et l'autre. C'est surtout pour nous qu'il faut de la patience. Et puis, le catastrophisme de notre époque a bien besoin d'entendre que ce n'est pas la fin de tout et qu'il reste encore beaucoup de temps et que le premier à être patient, c'est un Dieu qui se cache, mais qui se révélera un jour ou l'autre dans l'espérance renouvelée. Amen.